Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Ah non, c'est sûr. Bah après, c'est vrai que ces élections, elles sont pas mal controversées. Je pense que tu voulais un peu nous en parler, si tu veux t'introduire sur ça. Comme ça, on va faire un parallèle avec les élections en elles-mêmes.
Parfait, parfait. Bien, j'avais déjà parlé lors d'une chronique précédente de comment fonctionnait le système électoral américain, puis le collège électoral, tout ça. Donc, je vais vous parler davantage des enjeux clés qui restent pour demain. Ça va être le rappel des États clés, donc les États pivots ou swing states. Il y en a sept. C'est des États qui vont autant pencher d'un côté démocrate que républicain.
OK. Donc, ils ont une importance certaine pour les élections.
C'est ça,
un peu rappeler aux auditeurs pourquoi?
Exactement, parce que les États pivots, au contraire des États comme la Louisiane, l'Alabama ou le Kentucky, sont des États républicains, comme à pratiquement chaque élection, bien, ils vont pouvoir changer de couleur électorale. Okay.
Et donc, s'ils changent, ça peut potentiellement contrebalancer des électeurs annuels assez constants?
Oui, c'est ça.
Ça pourrait totalement faire revoir l'élection?
C'est ça, parce que selon les cartes électorales, là, je ne connais pas les chiffres exactement, mais il me semble que c'était 470 grands électeurs, ou 500 quelques, là, je ne m'en souviens plus exactement. Puis, ces grands électeurs-là vont représenter le vote des Américains pour aller le porter, puis c'est eux qui vont élire le président. Là, c'est plus à titre symbolique.
Okay.
Donc, des grands États vont avoir davantage de grands électeurs, mais il y a une distorsion, puisque les petits États vont aussi avoir plus de grands électeurs. Donc, le vote va plus compter dans des petits États. Donc, les présidents ou les candidats en campagne vont davantage s'attarder sur ces États-là ici. Puis, il y en a dans ces États-là qui sont des swing states, comme la Pennsylvanie. Bien, la Pennsylvanie, pour les deux villes, les plus grandes villes, comme Pittsburgh puis Philadelphie, ils vont davantage être pour Harris, alors que le reste, ça serait davantage pour Trump. Le reste qui est plus rural, puis ouvrier. Puis jusqu'au plus récent sondage, là, c'est quasiment 50-50. Il y a aussi l'État du Michigan, qui comporte beaucoup de musulmans, qui sont aussi contre le soutien d'Israël par le Parti démocrate depuis plus d'un an.
Donc ça voudrait dire qu'ils seront plus... Désolé, je suis un peu inculte sur ça. Je pose des questions, est-ce que c'est des questions que je me pose? Je me dis potentiellement ça peut toucher le public. Ça va être plus penché vers le Trump, du coup, le soutien israélien, ou c'est
c'est un peu difficile à dire, parce que Trump, si, était très proche d'Israël.
OK.
Mais étant donné la situation actuelle, ces gens-là seraient prêts même à aller revoter pour les républicains.
Ah, ils seraient capables de revoter pour Joe Biden, malgré les interventions qu'il fait?
Pour Trump, ouais, c'est ça.
Pour Trump ou Joe Biden?
Pour Trump.
Ouais. Tu vois, c'est ça que ça vient à dire.
C'est ça, c'est compliqué.
Parce que en fait, les gens savent, en fait, ce qu'il fait, tu vois. Genre, en vrai, il y a... Je suis désolé de le dire, mais... T'es le mec qui te dit il est dans quelle direction. Tu vois, alors que Macron, tu vois, il te disait, ouais, je suis un mec du milieu, mais en fait, le mec,
il disait un peu rien.
Je suis au milieu, mais à la fin, mec, c'est un extrême, c'est un extrême technocrate poussé à l'extrême qui pense qu'heureusement, Annuel a privatisé tout le continent français, tu vois. Donc, je pense que les gens, en vrai, ils ont plus besoin actuellement, ils se disent, ils ont plus besoin, tu vois, genre de quelqu'un qui leur dit.
De prise de position.
Ouais, tu vois, d'un mec qui prend sa position, qui dit les choses telles quelles. Et au moins, on s'attend à la merde qu'il va faire, donc on s'attend à comment le contrer. Mais peut-être que Trump va remporter ses élections, on ne sait pas. Après, je sais que... Moi, je te parlais d'une question, peut-être pour ouvrir un autre sujet sur ça. On parle pas mal dans les élections américaines aussi de corruption.
Ouais.
De révocation de certains votes, d'ajustement de certains votes aussi. Qu'est-ce que tu en penses sur ça et sur ces élections notamment?
Honnêtement, je pense que c'est très minime.
Est-ce que c'est réel ou pas en fait? C'est ça la question.
Bien, c'est sûr que quand tu as une personne de l'ampleur de Donald Trump qui va dire que les votes ont été truqués puis ça a été revérifié par les gouverneurs en Géorgie parce qu'ils avaient accusé que les votes avaient été truqués dans cet état-là lors des dernières élections, qui est un état pivot ici, bien, je pense que c'est très minime, mais l'impact que ça prend dans les médias. Imaginez, vous êtes aux États-Unis, puis là, vous voyez, vous avez perdu, votre parti a perdu, votre candidat favori a perdu, puis là, vous rêvez, vous dites, ah, oh, mais merde, c'est à cause qu'il y a eu des votes illégaux, c'est à cause qu'il y a eu des votes pour la poste, c'est à cause qu'il y a eu des votes anticipés. Puis ça vient nourrir aussi ton sentiment de faiblesse.
Et c'est réel ou pas, en vrai?
Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait minimiser, parce que peu importe les résultats, il n'y a pas vraiment de corruption en tant que telle pour le comptage des votes. Puis c'est plus en ce qui a trait au système même, parce qu'il y avait eu le redécoupage des circonscriptions, des trucs comme ça. Des fois, des gens vont être désavantagés pour aller voter parce qu'ils doivent prendre l'autobus, donc ils vont dire ah, « je vais pas aller prendre l'autobus okay. ». Mais c'est quelque chose de très situationnel, puis c'est pas quelqu'un ou c'est pas des gens qui ont tenté de saboter là-dessus.
Tu veux réagir, William, sur ça?
Fait. Moi, je voulais rebondir okay. en fait sur quelque chose qui m'est très important. Enfin, je sais que on a vu à Washington, enfin, on a déjà des bâtiments qui sont en train de se barricader. Mm-hmm. On a des gens qui, enfin, on est dans un contexte
ah, on s'attend
de...
à...
oui,
ah,
oui ouais, on s'attend à des violences à l'échelle nationale. Moi, enfin, de ce que je vois là, on en parlait tout à l'heure avec le conflit ukrainien. Effectivement, on a des réarmements avec des mises en perspective. En fait, il y a tellement de choses qui se passent dans notre monde qu'en fait, on attend vraiment au tournant ces élections, en fait. Et quels que soient bah, en fait, les résultats, on va avoir un découlement qui va avoir un impact sur notre futur, au moins sur notre imaginaire collectif, sur notre futur, et sur notre monde avec diplomatique, entre guillemets. Et je voudrais savoir en fait, ce que vous en pensez de cette peur ou de cette joie qui est sous-entendue par les résultats de cette élection tels qu'ils sont, en fait. Et ceux de votre point de vue ici, en fait, d'étudiant en mobilité internationale, et en tant que Québécois, moi j'ai envie de dire que quels que soient les médias que je consulte, le monde entier semble passionné par ces élections, mais pour autre chose que pour le résultat du vote.
Tu veux dire que, vrai, c'est surtout les conséquences mondiales que,
ouais.
Que, ouais, okay. ouais. C'est plutôt les gens voient les conséquences mondiales ouais. de ces votes.
Avant même de voir si c'est Donald Trump ou Kamala Harris qui va remporter le scrutin.
Mais en fait, en vrai, dans les deux cas, je pense qu'il y aura des problématiques. Maintenant, c'est aux électeurs de choisir quelles problématiques ils veulent pour le futur de leur monde. Mais moi, personnellement, je pense que il y a beaucoup de choses qui ont été faites sous la présentation de Joe Biden. Et le problème, surtout le plus grand problème, je pense que ça a été beaucoup poussé médiatiquement, je pourrais pas dire pourquoi, mais vraiment quand Trump parlait avec Poutine, on parlait de futur, tu vois, on parlait de certains futurs désastreux. Je pense que même en vrai la France fait des interventions dans ça, c'est triste à dire, mais ils font des interventions dans ça parce que en vrai à la télé, j'ai jamais vu, genre j'ai dû faire mes recherches pour voir qu'il y a quand même eu des très bonnes choses qui ont été faites par Trump, et même aussi avec Biden. Bah en fait, ça a été plus souligné avec Biden qu'avec Trump. En France, actuellement, quand je regardais les journaux, tu vois, quand je regardais la télé et tout, c'était le cas. Genre, les gens, ils passaient genre 1h30 à te parler d'un petit truc de Biden, tandis que genre, pour Trump, en fait, t'avais aucun moment, genre, on parlait des bonnes actions qu'il avait faites.
Bien, je vous dirais, là-dessus, c'est surtout le cadrage médiatique. Puis, les Américains, ben, tout comme les Canadiens et les Québécois, ont beaucoup parlé d'inflation, puis ils appelaient ça la Bidenflation, puis associaient aussi ça aux dépenses en Ukraine. Puis Trump, lui, il voulait un retrait bien, des investissements faits en Ukraine. Lorsqu'il était président ici, il voulait aussi se retirer de l'OTAN, de retirer des dépenses militaires pour réaffirmer aussi le sentiment américain, pour dire aussi qu'ils ont les capacités de se défendre seuls, puis qu'ils sont capable aussi de naviguer seul par rapport à ces conflits-là, puis de ne pas intervenir puisque ce n'est pas sur leur territoire. Mais d'un autre côté aussi, c'est qu'ils sont tellement impliqués partout qu'ils n'ont pas nécessairement le choix. Donc, même si demain matin ou demain soir...
Mais tu sais que ça, mec,
ouais.
Premier degré, le fait qu'il n'y ait pas d'intervention partout, moi, personnellement, en prenant en compte ce qui se passe en Afrique, c'est quelque chose que je pense que beaucoup de populations attendent. Qu'il n'y ait pas autant d'influence et d'intervention occidentale dans leur pays.
Ouais, ça c'est...
Donc ça, mec, déjà, quand je me parlais des musulmans qui voulaient voter pour Trump, je pense que ça fait partie des arguments
qui se disent. C'est ça, l'ingérence ici. Puis ici, on a le temps, je sais qu'il reste...
Parce qu'il y a des très mauvais souvenirs des interventions américaines. Moi, je dirais Barack Obama, qu'on le veuille ou non, il a tué des gens en Afghanistan, il a tué des gens en Iran, tu vois. Qu'on le veuille ou non, c'est une vérité vraie. Il a participé à ces bombardements. Et qu'on le veuille ou non aussi, il n'y a jamais eu en vrai une vraie confirmation. En fait, tu ne sais pas à quel moment un état militaire américain va définir des civils comme étant des civils et des civils armés. Tu vois, il n'y a pas de différenciation. Moi, je n'ai jamais compris la différenciation notable. C'est pas très bien développé. Donc, je pense que moi, actuellement, il y a des mauvais côtés chez Trump que je pourrais... citer une liste complète, il y a des côtés sur un impact mondial qui sont beaucoup plus intéressants qu'une intervention occidentale. Après, je sais qu'il y a les mauvais côtés, tu vois, avec, on parle d'antisémitisme, on parle de xénophobie, d'homophobie. Ça, c'est vrai que c'est des points assez importants à souligner et qui font très peur, parce que c'est que récemment que ces communautés ont réussi à se placer. Mais personnellement, je trouve que entre la mort de certaines personnes et la souffrance d'autres, je préfère une fois souffrir que des gens meurent à cause de
tout
mon
à fait.
Opinion.
Voilà, tout à fait.
Après, c'est mon avis personnel.
Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous dites. C'est un truc qui m'est plutôt cher, en fait. C'est, aujourd'hui, j'ai l'impression que les politiciens, aujourd'hui, ils gardent en fait leur population à l'écart de leurs choix, à l'écart de leurs réflexions. Moi, pour moi, c'est un projet, c'est une question, c'est un projet qui me pose problème. Parce qu'en fait, au-delà du fait que tu n'impliques pas la population dans le débat, parce qu'en fait, quand tu votes pour quelqu'un, tu votes pour une partie de son projet, mais pas pour l'ensemble de son projet, ça, faut quand même qu'on se le dise. Moi, j'aurais aimé en fait qu'on puisse voter pour un gouvernement, mais qui soit modulaire. Tu vois, ça, c'est mon rêve ultime, c'est d'avoir en fait un gouvernement qui soit, où en fait, tu votes une personne du gouvernement pour son projet, mais c'est peut-être à mon sens, le point culminant de la démocratie, parce qu'on aurait enfin accès aux affaires du monde, aux affaires de ce monde, en tant que population. Et le truc le plus important, à mes yeux, et là, c'est vraiment le truc, mais ça ne se fera jamais, et voilà, ça serait que nos politiciens arrêtent de mépriser leur population parce qu'ils sont un culte, en fait. Nous, on est un culte parce que
vous ne donnez pas les outils.
Parce qu'on n'a pas les outils, parce qu'on s'informe avec des journalistes qui essayent de faire de leur travail et qui ne peuvent pas faire leur travail. On s'informe avec des ressources qui sont en fait moindres comparées aux informations qui sont celles des militaires, celles des policiers, celles... Pour de très bonnes raisons comme de mauvaises raisons, j'en sais rien, c'est pas moi d'en juger. Mais j'aimerais qu'on évolue sur ces questions-là aussi, de à quel point on peut participer, à quel point on peut aussi s'informer sur la réflexion de nos politiciens et de nos décideurs.
Bah après,
et ça, à l'échelle mondiale.
Soi,
c'est mon rêve.
En
mon
soi,
rêve.
Je bouclerai cette parenthèse, après je laisserai Sarah en continuer sur sa présentation. Moi, je pense qu'il n'y a pas aussi autant d'engagement qu'à l'époque.
Oui.
Premièrement. Donc, ce n'est pas totalement la faute des politiciens. Et deuxièmement, mec, je vais être cash. Tu veux te renseigner sur des lois qui passent ou qu'on... Je vais dire un truc tout con, je parle de la France parce que c'est le sujet que je connais. Tu veux te renseigner sur des lois qui passent H24 pendant les conventions, les réunions de députés ou l'Assemblée Générale. Je te promets que tu peux le voir. Non, je te jure, tu peux le voir. Ça existe, les rapports. C'est juste qu'on n'est plus engagé. Donc on s'en fout, en vrai. En vrai, genre, ce serait pas le cas, il y aurait eu plus de votes pour les précédentes élections en France. Mais il y a eu beaucoup de désistements, il y a eu beaucoup de présence, on va dire, médiatique et même présence physique de la part des électeurs. Il n'y a eu aucune présence dans les votes. Quand il y avait la conférence de Mélenchon, de ci, de ça, il y avait, tu vois, 4000 personnes, ça avait rempli la place de la République. À la fin, sur les élections, ce n'est pas démonstratif.
C'est vrai.
Donc, il y a plein de problèmes. Je pense qu'après, chaque pays a ses problèmes sur les élections. Peut-être que Sarah, tu peux nous éclairer un peu sur ça aussi également.
Bien, j'allais juste vous dire, surtout dans le cas américain, bien, c'est sûr qu'il y a vraiment une défaillance de la démocratie. J'avais parlé dans mes anciennes chroniques de la polarisation. Puis ici, on peut voir que les gens, peut-être, ont moins confiance au système, mais en même temps, ça reste un des seuls moyens légitimes pour effectuer des changements, entre guillemets. Puis, bon, sinon, il peut y avoir les manifestations comme Occupy Wall Street ou une manifestation, une initiative plus populaire pour que les changements viennent réellement, parce que plus qu'on avance, plus que la société évolue, bien c'est encore le 1% qui a l'argent, c'est encore les grands décideurs, c'est encore un président, c'est encore... Bref, c'est encore une petite poignée d'élus qui font ce qui nous est caché. Je dis nous, mais les Américains, qu'est-ce que la CIA travaille, qu'est-ce que la FBI travaille,
c'est pas connu non plus du public.
Ouais. Il y a beaucoup, je trouve qu'il y a énormément un manque de transparence. Il y a un rapport extrêmement grand entre des individus, entre un itinérant puis
est toujours présent, en fait.
Puis c'est d'alimenter ça par le rêve aussi, puis un peu des fausses promesses, mais des gens qui sont en haut, dans les hautes sphères, et ont peut-être jamais connu... Qu'est-ce que
les souffrances
du...
ouais, les souffrances,
les Américains,
les problématiques sur lesquelles ils travaillent,
les souffrances du public, les souffrances ouvrières, les souffrances de racisme, toi, je suis d'accord.
Puis ils peuvent dire n'importe quoi, puis à la fin de la journée, bien, ils vont empocher 500 000 $.
Bah ouais.
Ils vont garder leur petit montant comme ça.
Pourquoi tout le monde veut être président, c'est ça la question. Tout le monde veut le pouvoir, tout le monde veut le gérer. Sur ce, je ferai un dernier tour de table pour le mot de la fin. et on clôturera sur ça. William, je t'en prie.
J'aimerais dire que j'étais heureux d'être avec vous, les gars.
Ok, bah,
avec
merci.
Vos voix radiophoniques et très belles.
Ok. Pas de bisous. Hein. Sarah.
Pas de bisous non plus. On se prépare demain pour la soirée électorale. S'il y en a, vous êtes invité pour une soirée qui va se dérouler au bord le tapageur. Il risque okay. d'avoir pas mal de gens. Discuter de politique. Puis si. Je voulais parler pendant la chronique, mais on n'a pas eu le temps de Paris. Eh bien, okay. oui, c'est rendu légal après 100 ans d'interdiction. On peut
les paris sont devenus légaux maintenant?
Parier sur les élections. Mais il faut être résident américain.
Ouais, ok. Ah, merci de l'info. Ouais. Hein. Voilà, je vais faire une demande d'AVE. Moi, je dirais le mot de la fin. Très peu de temps toujours pour débattre de ces sujets fort intéressants. En tout cas, on attend un retour de votre part, que ce soit sur le site. Si vous souhaitez réécouter l'intégralité de l'émission, on est présent sur le site cfac.ca88.3fm. Et en tout cas, on vous laisse avec le mot de la fin et on fera un retour bref sur les événements de la semaine avec la chronique du 12. Sur ce, bon début de semaine. Essayez d'avoir votre opinion, esprit critique et gardez toujours la bonne humeur. Faut pas se laisser influencer, les man. Peace and love et retour à notre pause publicitaire.